De l'agacement à l'enthousiasme, elle laisse rarement indifférent. Pourquoi l'écriture inclusive suscite-t-elle toujours en France des réticences ?
Chantal Leroux.
Bonjour Raphaël Haddad.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et fondateur de l'agence Mots-Clés. L'écriture inclusive et si l'on s'y mettait, c'est le titre du livre en forme de plaidoyer que vous publiez aux éditions Le Robert. L'écriture inclusive reste un sujet de débat en France. Elle a donc vraiment besoin d'être défendue ?
En tous les cas, elle a besoin d'être expliquée. En fait, l'écriture inclusive recouvre différentes choses. On va, j'imagine, beaucoup en parler ensemble dans les prochaines minutes. Ce qui cristallise les crispations, c'est vraiment le point médian. C'est sur ça qu'aujourd'hui, l'opinion est la plus cristallisée. Sur les autres facettes de l'écriture inclusive, la féminisation des noms de métiers, le fait d'utiliser les deux genres lorsqu'on désigne une population mixte où il y a des femmes et des hommes, tout ceci fait ou consensus ou même très largement consensus parfois.
Alors vous affirmez d'emblée, l'écriture inclusive n'est pas woke, c'est une tradition française. Alors voilà une petite phrase qui a de quoi désarçonner. Pourquoi l'écriture inclusive est-elle assimilée par certains à la culture woke ?
Parce qu'en effet, on voit aujourd'hui ces phénomènes exister dans le monde entier. On a eu beaucoup de débats aux États-Unis, en Amérique latine, ailleurs dans la francophonie. Et donc, pour cette raison-là, on peut penser que c'est encore une expression d'une importation étrangère. La réalité, c'est qu'il y a une tradition d'aller bien française de la réflexion sur le rapport entre la langue et la manière dont on met en évidence le fait qu'il y a dans notre société des femmes et des hommes ou pas. C'est quelque chose qui a été très largement travaillé depuis le Moyen Âge. Beaucoup d'autrices et d'auteurs, plus rarement, se sont exprimés à ce sujet. C'est quelque chose qui est reconnu par les plus grandes institutions internationales, encouragé par des circulaires ministériels, promu par les mouvements féministes depuis les années 80, travaillé par le monde universitaire depuis les années 70. Et là, je ne parle que du français de France. Donc, en fait, on ne peut vraiment pas dire que l'écriture inclusive est une importation étrangère récente. On ne peut pas dire que l'écriture inclusive est woke. Il existe une tradition française de l'écriture inclusive, celle que je défends dans ce livre.
Alors, le problème de l'écriture inclusive, vous le disiez tout à l'heure, c'est le fameux point médian qui fait figure d'épouvantail. Pourquoi ce signe typographique est-il autant décrié ? Et il faut peut-être d'abord expliquer aussi comment et dans quel but on utilise le point médian.
Oui, alors on peut en effet commencer par là. La question qui se pose, c'est globalement lorsque nous sommes face à une population mixte dans laquelle se trouvent des femmes et des hommes, est-ce qu'il faut utiliser un masculin générique ou pas ? On voit bien les problèmes posés, ne serait-ce qu'en termes de clarté, par le fait d'utiliser un masculin générique pour désigner des populations mixtes. On voit bien d'ailleurs que, par exemple, dans le discours politique, ça fait très longtemps qu'on dit « françaises, français, celles et ceux », etc. Précisément parce que l'évidence s'impose. L'évidence, c'est que le monde est mixte et que donc il faut en rendre compte dans la langue. Alors après, à l'écrit, on peut utiliser tout un tas de possibilités. On peut utiliser les deux formes. Je viens de le faire à l'oral, celles et ceux, chacun, chacune, etc. On peut utiliser une abréviation, qui est ce point qui vient à la fin d'un mot. Par exemple, chacun et chacune pourra s'abréger, à l'écrit seulement, chacun, point E. On sait maintenant, parce que ça fait quelques années qu'on a des pratiques comme cela, que globalement, il y a des choses qui fonctionnent, qui sont socialement OK, acceptées, et puis il y en a d'autres qui posent des problèmes, qui posent des problèmes de lecture, qui posent des problèmes de fluidité, qui posent des problèmes de style. Et donc, ce que je préconise dans ce livre, avec d'autres, avec le Haut Conseil à l'égalité, avec Eliane Viennot, etc., c'est de revenir à ce que j'appelle un usage raisonné de ce point, c'est-à-dire en n'en utilisant pas trop, d'une part, et puis deuxièmement, en le limitant aux mots qui sont très proches. Si je résume, pour donner une idée simple à celles et ceux qui nous écoutent, globalement, il faut utiliser un point là où avant on se sentait à l'aise pour utiliser une parenthèse. Par exemple, chacun, parenthèse E, né, parenthèse E, on pourra cette fois-ci mettre un point qui est plus discret et plus juste. Ce sont les seuls cas, il me semble, où ce point reste toléré. Dans les autres cas, il faut plutôt l'éviter et utiliser les deux autres formes. Voilà ce que nous enseignent 50 pratiques relative à l'écriture inclusive maintenant.
Mais vous êtes d'accord quand même avec ceux qui vous disent que le point médian alourdit ou défigure un texte, qu'il ralentit ou perturbe la lecture ? ou pas ?
Alors, il y a plusieurs critiques dans ce que vous venez, de dire. Est-ce que ça ralentit la lecture ? Non, ça ne ralentit pas la lecture.
Ça a été prouvé, il y a eu des tests
Oui, il y a eu des tests de lecture qui ont été faits. On se rend compte que globalement, dès la deuxième occurrence dans un texte, la vitesse de lecture retrouve sa normalité. Pour la bonne et simple raison, vous connaissez le test, qu'en fait, on ne lit pas dans l'ordre où les syllabes sont écrites. On devine, on reconstitue les mots à partir de la première et de la dernière lettre. C'est comme ça qu'en fait, on lit, en tous les cas pour le français. Donc, en fait, ça n'entrave pas la lecture. Par contre, ça peut en effet alourdir, surtout s'il y en a beaucoup. Ça peut en effet gêner. Et moi, j'attends pas de savoir si le sentiment de gêne est légitime ou pas. Si des personnes disent qu'elles sont gênées, ben elles sont gênées. C'est leur ressenti. Il faut en tenir compte. Parce que la langue, c'est un ciment. Et donc, en fait, se demander comment est-ce qu'on peut trouver les plus grands dénominateurs communs autour d'un enjeu qui reste juste, qui est l'égalité, mais tout en tenant compte des retours d'usage qui sont maintenant assez massifs parce que l'écriture inclusive s'est largement développée, bah c'est ce que j'essaie de défendre dans ce livre.
Et par rapport à l'apprentissage du français, est-ce que le point médian ne risque pas de compliquer la tâche à beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent déjà pas l'orthographe à la fin de l'école primaire, par exemple ?
Alors, on peut dire à ce sujet plusieurs choses. D'abord, je pense que c'est important de permettre à des enfants de décoder ce point. J'en ai fait moi-même l'expérience personnelle. J'ai un petit garçon qui est en CE1 et qui m'a, il y a quelques mois, ramené une circulaire qui était faite par un syndicat de parents sur laquelle il y avait des points milieu et qui m'a posé expressément la question de savoir comment il fallait lire ces mots-là. Donc en fait, c'est quelque chose qui est présent dans la société et c'est certainement pas chez RFI qu'on va ériger l'ignorance en vertu. Donc en fait, oui, c'est important de savoir le lire. Après, est-ce qu'il faut le promouvoir ? À l'évidence, pas. Est-ce qu'il faut l'enseigner ? J'en doute également. Mais en tous les cas, permettre à des gens de le décoder, ça me semble être le minimum légitime auquel on puisse aspirer.
Raphaël Haddad, je vous propose d'écouter la metteuse en scène Ariane Mnouchkine. Le point médian, elle n'aime pas vraiment, mais elle a des propositions pour le remplacer.
En ce moment, il y a toute cette bataille sur la langue inclusive, pas inclusive. Mais pourquoi c'est si triste ? C'est si triste parce que c'est pris par le mauvais bout. C'est-à-dire, on est prêt à détruire la langue pour obtenir une justice de la langue. Et moi, je pense que cette quête de justice, moi, je la reconnais au fond. Je pense qu'elle est... On ne peut pas l'ignorer, que la langue ait été comme ça masculinisée à outrance depuis le 17e, fin du 16e. Bon. C'est vrai, ça s'est fait d'une façon dominatrice. Donc je comprends très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne cherche pas justement, pourquoi pas mettre des grands écrivains pour trouver d'autres mots. Par exemple, nous, on en a inventé un. À force d'écrire à tous ou à toutes, bah, moi, maintenant, je mets à tous. C'est-à-dire T-O-U-S-T-E-S. Peut-être que ce S du milieu pourrait être remplacé d'ailleurs par un accent circonflexe. J'en sais rien. Mais pourquoi ne pas tenter en respectant notre langue, en la respectant, parce qu'elle est notre outil de pensée, c'est-à-dire notre outil de survie intellectuelle humaine, pourquoi ne pas chercher les mots qui peu à peu se rapprocheraient d'une justice ? Parce que ce point médian, moi je ne l'accepte pas. C'est une imposture puisqu'on ne l'entend pas à l'oral, qu'il est vilain dans la... Enfin, donc trouvons, au lieu de nous séparer en deux camps idéologiques irréconciliables sur un signe typographique, trouvons les mots.
Ariane Mnouchkine dans De Vive Voix, au micro de Pascal Parado en décembre 2021. Raphaël Haddad, que pensez-vous de ce « toust » que propose Ariane Mnouchkine ? C'est ce qu'on appelle un mot non-binaire, ou plutôt un néologisme non-binaire.
Bon, elle est forte, Ariane Mnouchkine. D'abord, elle a un phrasé qui donne d'abord envie de l'écouter. Et sur le fond, elle dit l'essentiel. Elle dit d'abord que l'enjeu est légitime. Et évidemment, je suis d'accord. Elle dit ensuite qu'il y a une joie dans cette pratique. Et c'est quelque chose qu'on a insuffisamment relevé. En fait, se poser la question de comment on rend compte du fait que le monde qui nous entoure est un monde mixte, eh bien, vous savez quoi ? Lorsqu'on écrit et lorsqu'on parle, c'est profondément joyeux. Et Ariane Mnouchkine le dit. Après, la discussion, elle peut porter sur les modalités. Elle a, en tant qu'artiste, en tant que figure intellectuelle, en tant que personnalité culturelle, toute légitimité pour élaborer, essayer, façonner ce qu'elle souhaite. Et il ne m'appartient pas de dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Moi, ma préoccupation, c'est comment est-ce qu'on rend cette pratique soutenable par le plus grand nombre de personnes. Et de ce point de vue, il faut observer que les néologismes non-binaires, les TOUST par exemple, sont d'abord fortement réprouvés par l'opinion publique française, à près de 80%. C'est de toutes les conventions d'écriture inclusive qui existent, celle qui est la plus majoritairement réprouvée, devant le point milieu. Hein. Le point milieu, c'est plutôt 60%. Donc on a quand même 20% de personnes en plus qui sont favorables au point milieu, mais défavorables au néologisme non-binaire.
On peut en donner d'autres exemples de néologisme non-binaire.
Oui, bien sûr. Bah, on a eu un débat il y a quelques mois sur le YEL, qui est la conjonction de il et elle. On a eu, on voit par exemple émerger actrice, qui est l'accolement des deux suffixes,
acteur et actrice,
etc. Donc cette pratique existe et elle répond à différentes motivations. On observe simplement qu'aujourd'hui, elle est difficile à soutenir. Vous ne pouvez pas, vous, demain, dans un papier, décider d'utiliser le mot actrice, parce qu'en fait, la langue française obéit aussi à des règles, à des normes, et que vous ne pouvez pas vous improviser. Vous appartenez à une organisation collective qui fait que vous devez vous exprimer dans un certain cadre. Eh bien, en fait, ces mots peuvent s'élaborer librement dans une pratique personnelle, militante, artistique éventuellement, mais dans un cadre plus institutionnel, c'est difficile. Donc, il faut bien proposer des alternatives. Celle aujourd'hui qui existe, c'est le point milieu, c'est l'utilisation des deux genres, ou c'est, on va en parler aussi, j'imagine, ce qu'on appelle des reformulations épicènes.
On va y revenir. Ce qui fait en revanche plutôt consensus, c'est la féminisation de la langue française. D'ailleurs, il vaut mieux parler de reféminisation en rapport avec donc, le Moyen-Âge, où des noms de métiers, par exemple, étaient féminins.
Oui, ce que Eliane Viennot ou Amandine Musso, qui contribuent toutes deux à ce livre, ont montré au travers de différents travaux de manière assez magistrale, c'est qu'en réalité, la langue française, les usages de la langue française étaient au Moyen-Âge de manière générale beaucoup plus souples et en l'occurrence bien davantage féminisés que ça ne l'est aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on nous sommes en train de faire depuis les années 80 pour le français de France, c'est refermer une parenthèse qui a été ouverte à la fin du 16e, au début du 17e. Ariane Nousrine vient d'en parler, je n'y reviens pas, en réinjectant dans la langue française des formes au féminin pour rendre compte du fait que le monde est dual.
Alors même la très conservatrice Académie française a reconnu en 2019 la reféminisation des noms de métiers et de professions, approuvée en France par 2 personnes sur 3, ce qui n'empêche pas Hélène Carrère d'Encausse de faire de la résistance. Elle signe toujours le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Elle s'en est expliquée en décembre dernier dans l'émission C'est à vous sur France 5.
Vous savez, l'Académie française, elle n'est pas faite pour ordonner, elle est faite pour accompagner l'usage et plutôt dire le bon usage. Et j'ai demandé qu'on fasse un état des lieux. Et quand on a fait l'état des lieux, on a découvert ce qu'on savait depuis très longtemps, ce qui est dans le dictionnaire. Le dictionnaire a été publié depuis 1690, hein, ne l'oubliez pas. Et on a toujours su que les noms de métiers, il y avait un féminin, tout simplement parce que ça traduisait des réalités. Un boulanger avait une femme qui exerçait avec lui, elle était boulangère, etc. Les fonctions, alors ça c'est là qu'était la grande difficulté. Parce que les fonctions n'appartiennent pas à la personne. Le métier, c'est la personne. Mais la fonction, vous l'exercez à un moment donné, puis ça s'en va. Et du même coup, on a toujours considéré que la fonction était neutre. Alors, en français, il n'y a pas de neutre, c'est ça le problème. En latin, il y en a un, ça va, mais nous n'en avons pas. Et au fond, on a considéré que le masculin faisait fonction de neutre. Ce qui a beaucoup, je dirais que jusqu'aux années 90, ça passait. Tout d'un coup, on a dit, ah, mais ça ne va plus, les féministes ont considéré que ça les insultait. Bon, c'est pour ça que j'ai fait faire un état des lieux. Et au fond, on est arrivé à la situation suivante. On a décidé qu'on pouvait féminiser tout. Et l'Académie considère surtout qu'au fond, il faut féminiser un petit peu à la demande. Il faut respecter la volonté de la personne. Et c'est beaucoup plus sympathique.
Raphaël Haddad, il faut respecter la volonté de la personne, dit Hélène Carrère d'Encausse. Vous êtes d'accord ?
Ce serait un extrait fascinant à décrypter. Enfin, vous savez, moi, avant de travailler sur l'écriture inclusive, j'ai fait une thèse en analyse du discours. Et Hélène Carrère d'Encausse nous dit dans la même phrase, on a découvert quelque chose qui existait depuis très longtemps, donc elle l'a découvert, mais ça existait depuis très longtemps. On n'ordonne rien, mais on accompagne le bon usage, donc on sent bien la tension entre l'observatoire et le fait et la prescription. Donc en fait, on voit bien la tension dans laquelle elle se trouve. Après, les arguties qui font qu'elle a découvert ce qui sautait aux yeux du commun des humains, je comprends que chez les immortels, ce soit peut-être moins évident. Depuis le Moyen-Âge, c'est quelque chose... Enfin, ce débat a eu lieu très largement en 2017. L'Académie française a fini par céder après y avoir combattu les féminisations des noms de métiers aussi farouchement que possible. Tant mieux, dont acte, passons à autre chose. Hélène Carrère d'Encausse tente de préserver les faces en expliquant que sa position reste cohérente. Je lui laisse le soin d'en répondre.
Caractéristique première du Z, il se prend la tête et quelles qu'en soient les raisons d'après. près de lui, tout si près, mais ne t'y trompe pas si tu veux me parler. Je suis là pour ça, dis-moi ce qui prend la tête, sinon c'est moi qui me la prendrai pour toi. De toi à moi, fie-toi à moi, crois-moi, tu le regretteras pas. J'ai plus d'un tour dans mon sac, car la vie m'a mis plus d'une claque. Et je sais que c'est dans la douleur que l'apprentissage s'affine, que si on les garde pour soi, les mauvaises pensées ruinent. Pose là dans mes bras, ce fardeau qui te broie sous son poids. Tu te bouches les artères, ma sirène, ton cœur, toi dans ton silence. Ouvre au moins les vannes, laisse-moi une chance de pénétrer ton âme en toute innocence. Fais-moi confiance. Te hante, donc il entre notre relation. Entre en phase avec moi, donne ou partage, mais ne garde pas. Je me ferai exorcister, la parole sera ma croix. J'ai un chapelet d'étreintes à ta disposition. Sur moi, même le diable ne résisterait pas à ma profession de foi. Donc, confesse-toi, confesse-toi, confie-toi qu'on cesse pas. Notre histoire dépend de ta confiance en moi. J'ai conscience de la souffrance que t'accumules sous ton toit. Mais débrider tes sentiments ne dépend que de toi.
Hey baby, c'était Zil dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Haddad pour son livre guide L'écriture inclusive et si on s'y mettait, publié aux éditions Le Robert. Le débat sur l'écriture inclusive existe-t-il aussi dans d'autres pays francophones ?
Oui, il existe. Il a existé en Suisse l'année dernière de manière importante. On en a eu les échos en Belgique. C'est un débat qui a réémergé sous une forme polémique au Québec francophone il y a 3 ans, alors que dans la pratique, il y avait des choses tout à fait consensuelles qui s'élaboraient depuis les années 80, s'agissant du Québec francophone.
Parce que le Québec a été donc un précurseur en la matière.
Le Québec, en tous les cas, a été, une francophonie résolue en la matière. Elle n'a pas été nécessairement précurseuse, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu aussi en France beaucoup de choses depuis les années 70 notamment, mais le Québec a été plus résolu sur le plan institutionnel. Il faut dire que, de manière générale, la constante, si vous voulez, c'est que le français hors de France est beaucoup plus libre. L'idée que le français s'élabore au travers des usages, que personne n'a veillé au grain du bon usage, est une idée beaucoup plus commune et admise dès lors que l'on franchit les frontières de la métropole.
Vous soulignez que l'inventivité linguistique, en effet, est bien plus forte partout dans la francophonie, si on compare avec la France, et notamment en Afrique francophone.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont toute personne qui s'est promenée en Afrique francophone a pu faire l'expérience. On voit bien que les usages, le rapport à la langue est beaucoup plus libre, s'élabore des néologismes, s'élaborent des tournures. Et puis, de manière générale, on n'est pas en train de se demander, lorsqu'on s'exprime, si on a raison ou tort de s'exprimer ainsi. On comprend qu'en fait, la langue française appartient d'abord à celles et ceux qui en usent, là où, pour le français de France comme pour l'espagnol d'Espagne, c'est-à-dire dans les deux pays où il y a une académie chargée de veiller au grain du langage, on a des usages qui sont autrement plus interdits.
Comment se pose dans d'autres langues que le français la question de l'écriture inclusive en espagnol, par exemple ?
Alors, c'est un débat qui a eu lieu dans un certain nombre de pays. D'abord, il faut distinguer de manière générale les langues qui sont très marquées en genre, c'est le cas de l'espagnol, de l'italien ou du français, de celles qui, je parle là des langues romanes, de celles qui le sont moins, et on prend souvent l'exemple de l'anglais, par exemple, qui est une langue qui est beaucoup moins marquée en genre. Alors, on peut dire 2 choses. La première, c'est que ce débat a lieu dans beaucoup de pays, dans des modalités qui ont trait à la structure de la langue et à la culture de chacun de ces pays. On a eu en Amérique latine un grand nombre de débats relatifs à au language inclusive. On a eu aussi ces débats au Costa Rica, au Chili, etc. On l'a eu également un petit peu pour l'italien ces dernières années. Ce qu'on peut dire s'agissant par exemple de l'anglais. L'anglais est moins concerné par le marquage en genre que le français, l'espagnol ou l'italien. Pour autant, ce qui saute aux yeux dès lors qu'on s'intéresse à ce sujet, c'est de voir à quel point ça va vite dans le monde anglo-saxon. Je vous donne quelques exemples. Fireman est devenu en quelques années à peine firefighter. Policeman est devenu en quelques années à peine police officer. Chairman est devenu en quelques années après à peine chairperson. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Ça n'a pas fait un pli. Tout le monde a bien compris qu'on ne pouvait décemment plus continuer à désigner ces professions qui sont comme par hasard les plus prestigieuses par un suffixe masculin, qu'il y avait quelque chose là qui était un piège de la langue dont il fallait se défaire. Donc ça a évolué et ça n'a pas fait le moins du monde le millième du débat qu'on a eu en France sur ces sujets.
Est-ce qu'officiellement la Déclaration universelle des droits de l'homme va devenir la Déclaration universelle des droits humains ?
Alors l'écriture inclusive, ce n'est pas un révisionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mots, des formulations qui appartiennent à une histoire, qui sont inscrits dans des contextes historiques, politiques, sociaux. Si dans un texte, je fais référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est comme ça qu'elle a été nommée, c'est comme ça qu'il faut y référer. Et c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et il ne s'agit pas de réécrire la manière dont s'appellent des textes. Pour autant, si je parle des droits de l'homme en général comme une cause à défendre, alors à ce moment-là, je pourrais opter pour une formulation qui intègre le fait que quand on parle des droits de l'homme, on parle aussi des droits des femmes. Et donc, on pourra parler des droits de la personne humaine, des droits de l'humanité, de toute autre formulation. J'observe d'ailleurs que les grandes organisations internationales en charge des droits de l'homme se sont progressivement refondé leur acronyme. La Fédération internationale des droits humains, par exemple, s'appelait la Fédération internationale des droits de l'homme il y a quelques années. Elle a changé de nom à ce motif.
Mais vous racontez que vous avez essayé de faire changer le nom du musée de l'homme du Trocadéro à Paris, et sans succès.
Oui, alors
comment,
j'ai essayé.
Comment voudriez-vous qu'il soit renommé ?
Bon, il y avait plein de possibilités, mais ça aurait été même l'occasion d'avoir un formidable débat avec les Parisiens et les Parisiennes sur autre chose que sur l'usage des trottinettes, par exemple, en leur demandant comment est-ce qu'il fallait renommer ce musée. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Museum of Man à San Diego, qui est devenu le Museum of Us, avec toute une réflexion qui a été populaire autour de la refondation de ce nom. On aurait pu avoir cette occasion de le faire en France, c'est quelque chose qui reste à faire. Et je ne désespère pas d'y parvenir, même si, pour l'instant, les tentatives ont été un peu vaines.
Raphaël Haddad, comme chaque mercredi, on a maintenant rendez-vous avec Lucie Bouteloup pour La puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Chantal.
Alors, avant Pâques et ses lapins, on a Avril et ses blagues.
Tout à fait. Aujourd'hui, avec Georges Planel, on vous parle des poissons d'avril. Alors, on se souvient tous de ces poissons en papier qu'on allait coller dans le dos de nos copains à la récré. Et peut-être même, Chantal, que vous continuez à faire des blagues à vos collègues chaque 1er avril. Mais savez-vous d'où vient cette délicieuse tradition ? Heureusement, bande de vénards, la puce est là pour éclairer votre lanterne. On vous dit tout dans un instant, mais avant, la parole aux enfants.
Ça veut dire, par exemple, tu dis quelque chose de faux. Par exemple, on dit, ta mère, elle est morte. Après, t'es pas content, t'es triste et tout. Après, tu dis, poisson d'avril.
Alors, poisson d'avril, souvent, quand on dessine des poissons, quand on est enfant et tout, souvent, on leur fait des grands sourires. Du coup, pour moi, ça veut dire, c'est une fête joyeuse. Et après, aussi, les poissons, c'est hyper speed. Quand ça sort de l'eau, la queue, elle bat hyper rapidement et tout. Du coup, ça veut dire être hyper excité, être content, faire des blagues, faire le guignol, quoi.
C'est une blague qu'on a créée où la tradition, elle veut qu'on accroche un petit poisson en papier au dos de la personne à qui on veut faire une blague, ça fait rire, tout ça, et ça a lieu le 1er avril.
D'où ça vient ? Du japonais, parce qu'il y a beaucoup de poissons au Japon.
Alors Georges Planel, on connaît tous cette formule poisson d'avril qu'on utilise lorsqu'on fait une blague à quelqu'un le 1er avril. Ça vient d'où ? cette expression poisson d'avril?
Ça, c'est un poisson qui nage un petit peu en eau trouble parce qu'on n'a pas de certitude sur l'origine de cette expression. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la locution poisson d'avril existe depuis le 15e siècle. Elle désignait à cette époque-là un entremetteur, un jeune garçon qui était chargé d'amener une lettre à une dame de la part de son amant.
L'entremetteur, c'est aussi le maquereau. Le maquereau qui tient ses filles.
Effectivement. Et maquereau, c'est un poisson.
Un poisson qu'on pêche.
Dont paraît-il, la meilleure période de pêche du maquereau, c'est effectivement le mois d'avril. Donc, c'est effectivement une explication de l'existence de cette locution.
Alors, on sait qu'au XVIIe, il y a eu un glissement du sens de cette expression. On est passé du fameux maquereau à la tromperie dans le sens la fausse nouvelle.
Ah, peut-être, c'est possible.
Et puis, il y a une autre possibilité.
Alors, une possibilité qui remonte à plus loin que ça, puisque jusqu'au XVIe siècle, effectivement, le jour de l'an n'était pas fixé au 1er janvier. Selon les régions de France, ça pouvait être fixé à des dates différentes, sachant que la plus commune, c'était le 25 mars. Et le roi Charles IX, en 1564, a décidé d'uniformiser tout ça et de décider que le jour de l'an serait au 1er janvier de l'année.
Oui, parce qu'à l'époque, on célébrait pendant une semaine entière, c'est-à-dire à partir du 25 mars jusqu'au 1er avril, l'arrivée du printemps. Donc nous voilà au 1er janvier, mais seulement ça ne se passe pas comme prévu, tout le monde n'est pas d'accord.
Tout le monde n'est pas d'accord, effectivement. Et il y a des gens donc, qui ont continué à garder la tradition de s'offrir des cadeaux, puisque ça existait déjà, de s'offrir des étrennes à l'époque du printemps, comme ça, fin mars, début avril. Et puis, il y a les gens qui ont considéré que, d'accord, on passe au 1er janvier, et qui, pour se moquer de ceux qui continuaient à considérer que le début de l'année, c'était effectivement au printemps, offraient des faux cadeaux. Et de faux cadeaux, ça s'est petit à petit, au fil des ans, transformé en farce.
Donc, ouais, c'est
donc
comme
des canulars,
ça que les canulars,
oui, tout à fait. Oui, exactement.
Oui. Autre hypothèse, cette fois, qui viendrait de la Grèce antique.
Oui, alors il paraît que effectivement au 1er avril en Grèce, on fêtait le dieu du rire.
Momos, qui viendrait du latin. Momos, qui viendrait du latin momus, c'est-à-dire le dieu de la raillerie. Et vous évoquez également, Georges Planel, une piste en rapport avec la fin du carême chez les chrétiens.
Oui, effectivement, le mois d'avril signe en général la fin du carême, période pendant laquelle la viande est interdite dans les assiettes et où le poisson est roi. Maintenant, de là expliquer pourquoi il y a des blagues qui sont faites au 1er avril, c'est pas forcément facile.
En tout cas, le poisson d'avril est encore très utilisé et la coutume, elle aussi, est très vivace, surtout dans les cours de récréation, ce qui laisse à penser que l'expression a encore de beaux jours devant elle. Alors, le poisson, on le retrouve dans beaucoup d'autres expressions. On est bien comme un poisson dans l'eau, on se fait disputer comme du poisson pourri. Quand on conduit, parfois, quelqu'un nous fait une queue de poisson ou encore quand on essaye de faire diversion, on noie le poisson. Bref, le poisson est depuis très longtemps une source d'inspiration.
On peut avoir aussi une mémoire de poisson rouge.
Ce qui est mon cas.
Un peu moi aussi.
Alors cette coutume, on la retrouve un petit peu partout, sauf en Espagne. Puisqu'en Espagne, le jour des blagues, c'est le 28 décembre. C'est le jour des saints innocents que l'on fait des farces. Et même les médias s'y mettent en publiant parfois des fausses nouvelles. Et les enfants, cette fois-ci, c'est pas des poissons qui se collent dans le dos, mais c'est des petits personnages qui ont plutôt des formes de bonhomme. Eh bien, merci Georges Planel d'être venu dans La Puce. Je rappelle que votre ouvrage, Les mille et une expressions préférées des Français, vient d'être réédité aux éditions de L'Opportun. À très vite, autour d'une nouvelle expression. Et ça, c'est pas un poisson d'avril.
Merci, à bientôt.
Et merci Lucie, on vous retrouve mercredi prochain.
À très bientôt.
Raphaël Haddad, l'écriture inclusive, est-ce qu'on a suffisamment de recul pour mesurer son impact au niveau individuel comme au niveau collectif ?
Au niveau individuel, à l'évidence, on a maintenant 40 ans de travaux scientifiques tout à fait sérieux qui montrent globalement les effets sur le plan cognitif, sur le plan individuel, sur le plan des représentations mentales. Par exemple, on se rend compte que selon la manière dont on pose une question, les chances d'avoir des noms de femmes cités changent radicalement. Si je vous demande de citer deux sportifs célèbres, il y a trois fois moins de chances que vous me citiez une femme que si je vous demande de citer deux sportifs et sportifs célèbres. Et on peut faire ça sur tout un tas de noms de métiers. L'utilisation d'un mot masculin générique, ça active spontanément des représentations masculines. Pascal Gygax a consacré un livre entier à ce sujet, auquel je vous renvoie, qui s'appelle « Le cerveau pense-t-il au masculin ?». Sur le plan collectif, il y a un certain nombre d'effets. Je laisse celles et ceux qui nous écoutent en prendre connaissance dans ce livre que je vous encourage à découvrir.
Absolument. Et ce livre, c'est « L'écriture inclusive et si on s'y mettait », Raphaël Haddad, publié aux éditions Le Robert.